Vous êtes sur Easy French.
Salut, salut. Bonjour Hélène.
Bonjour Judith. Ça va?
Ça va et toi?
Oui, ça va bien. J'espère que vous allez bien aussi les amis et j'espère que vous êtes prêts à nous écouter pour un nouvel épisode. Comme d'habitude, pour commencer, écoutons ensemble un petit message de notre communauté. C'est parti.
Bonjour Hélène, bonjour Judith, je m'appelle Myriam et je viens d'Allemagne. Je suis professeure de français dans un collège et je voulais vous remercier pour le travail de votre podcast et vous dire que j'attends fébrilement chaque semaine le nouvel épisode parce que je trouve vraiment tous vos sujets passionnants et que j'aime vraiment vous écouter. Parce que vous racontez chaque sujet avec légèreté et que vous y glissez toujours une anecdote passionnante. J'écoute aussi votre podcast pour maintenir mon niveau de français, parce que je suis enseignante. Et récemment, je suis même devenue membre pour pouvoir écouter les épisodes bonus et avoir accès aux transcriptions. Du coup, j'apprends encore mieux en lisant les dialogues à haute voix. Et ça m'aide beaucoup. Merci pour votre travail. Continuez comme ça. Salut!
Salut Myriam.
Alors là, si on commence à avoir des messages de professeurs de français, ça devient de plus en plus impressionnant.
Ouais, et c'est vraiment chouette de savoir aussi que les profs continuent d'apprendre et ne restent pas sur leurs connaissances qu'ils ont depuis l'université, mais continuent de vouloir s'améliorer, de maintenir leur niveau pour être de meilleurs profs pour leurs élèves. Et c'est génial, on n'arrête jamais d'apprendre.
C'est vrai. Du coup, j'imagine qu'elle doit faire partie des bons enseignants et ouais. Que ses élèves ont beaucoup de chance. En tout cas, on est hyper contente de savoir que toutes les ressources qu'on propose t'aident dans ta quête d'amélioration de ton français.
Merci beaucoup pour ce message. Bonjour à tes élèves. Et on commence?
C'est parti.
Le sujet de la semaine. Pour cette semaine, encore une fois, j'ai été inspirée par une conversation qu'on a eue il y a quelques jours pendant un tournage qui n'avait rien à voir avec le tournage.
Comme d'habitude. Hein.
Mais je me suis dit que c'était une bonne base pour discuter dans ce podcast. Et donc aujourd'hui, on va vous parler de l'alimentation et plus précisément des régimes, de l'obsession de la minceur.
Un vaste sujet absolument passionnant. Pour le coup, cette semaine, on est quand même sur la même longueur d'onde, toi et moi.
Et c'est tant mieux parce que je pense qu'on a raison. Je suis pas toujours sûre de moi, mais là, je pense qu'on a raison. Donc déjà, pour commencer un peu, on pourrait peut-être brièvement expliquer ce que c'est qu'un régime.
Un régime, malheureusement, c'est une modification de son alimentation sur une période assez courte, avec comme objectif de créer un déficit calorique, de diminuer au plus possible ce qu'on mange pour perdre du poids.
Donc ça, c'est ce qu'on appelle aussi plus spécifiquement un régime amaigrissant. Mais c'est vrai qu'on n'a pas toujours besoin de dire amaigrissant parce que... C'est souvent un peu un synonyme de régime parce que la plupart des gens qui choisissent de modifier leur alimentation, c'est dans un objectif de perte de poids, de modification de la forme du corps, etc. Bien qu'il existe aussi des régimes alimentaires comme être végétarien, être végane, ne pas manger de gluten, ce genre de choses.
Et en France, et je pense partout dans le monde, les régimes, c'est extrêmement populaire.
Très, très populaire. Apparemment, il y aurait un tiers des Français qui auraient déjà suivi un régime amaigrissant, principalement des femmes. Donc, un tiers des Français, mais la moitié des Françaises.
Mais tu vois, j'aurais dit plus.
Ouais, effectivement. Je pense que ça ne reflète peut-être pas totalement la réalité, cette étude. Mais effectivement, j'aurais dit plus parce que je pense que la majorité des Françaises que je connais ont déjà au moins essayé, peut-être même juste une journée,
ouais,
de faire un régime.
T'as déjà essayé, toi, de faire un régime ?
pas au sens strict du terme, c'est-à-dire pas de suivre un programme avec des recettes, des choses comme ça, mais comme la majorité des personnes, je pense, j'ai déjà eu des moments où je me suis dit « ça suffit, je mange plus jamais de sucre ». Par exemple, j'ai déjà essayé de ne plus manger de sucreries, c'est-à-dire plus aucun gâteau, plus aucun bonbon, plus de boissons sucrées, plus de desserts en fait, en me mentant à moi-même dans le but d'améliorer ma santé. Mais je pense que le but, c'était juste de perdre du gras. Et ça a duré un mois. Et toi ?
Oui, alors là, moi, quand j'étais ado, plein de fois, j'ai essayé les régimes. Je pense que j'ai jamais tenu plus de 3-4 jours.
Ouais.
Ça m'a jamais réussi parce que je suis ce qu'on appelle un bec sucré. J'aime énormément les desserts, les choses sucrées. Et voilà, si j'en mange pas pendant quelques jours, en fait, les jours d'après, j'en mange le double de ce que j'aurais normalement mangé. J'ai vite compris que les régimes, c'était pas pour moi.
Exactement. Bah moi non plus, c'est pas pour moi. J'ai déjà essayé toutes sortes de restrictions alimentaires en me racontant des histoires selon lesquelles c'était pour ma santé. Mais de toute évidence, c'était juste dans le but d'être plus mince et ça ne m'a jamais réussi, que ce soit physiquement ou mentalement. C'était à chaque fois une grosse erreur. On développera peut-être un peu plus tard, mais non, les régimes, ça ne m'a pas réussi, toi non plus. Et ça n'a réussi à pas grand monde,
ouais.
Parce qu'apparemment, 80% des personnes qui font des régimes amaigrissants reprennent après le régime tous les kilos qu'ils ont perdus, voire encore plus de kilos.
C'est pas étonnant et je pense d'expérience, en général, c'est reprendre les kilos qu'on a perdus et un petit bonus.
Exactement. Mais pourtant, c'est quand même populaire. Ce qui est très étonnant, c'est que c'est totalement prouvé que ça ne fonctionne pas du tout. Mais pourtant, les gens peut-être se disent « cette fois-ci, ça va marcher » et ils le font quand même.
Puis souvent avant l'été. Donc on fait bien de faire cet épisode maintenant parce que je pense que plein de gens se disent qu'ils vont perdre quelques kilos avant de mettre leur maillot pour aller à la plage cet été. Eh bien, désolé de vous l'annoncer. Mais si jamais vous perdez quelques kilos, sachez qu'en septembre, à la rentrée, vous les aurez tous repris.
Ouais, malgré ces effets néfastes, les régimes, comme on disait, sont quand même très populaires. Et l'été peut-être encore plus pendant notre adolescence et notre enfance. Et j'ai pensé notamment à un régime en particulier qui était hyper tendance quand on était un peu plus jeune. Est-ce que tu vois de quoi je veux parler ?
Alors, je vois de quoi tu veux parler, mais je pense qu'on a un avis divergent.
Ah ouais ?
Sur ce régime, ouais.
Ok, c'est le régime du camp.
Ah, le régime du camp, je pense qu'on a le même avis.
Ouais, c'est un régime qui a été promu par un nutritionniste français qui s'appelle Pierre Ducamp et qui a été populaire dans de nombreux pays, pas seulement en France. C'est un régime ultra protéiné, basé sur une alimentation de source animale principalement, surtout pendant ce qui s'appelle la première phase, donc les premiers jours du régime, on mange exclusivement de la viande et des produits laitiers et des œufs.
C'est une catastrophe, ce régime. Vraiment, il est gravissime. Il y a plein de personnes qui ont eu de gros problèmes. Ce qui est terrible avec ce régime, c'est qu'il fonctionne parce qu'en fait, c'est complètement scientifique. Quand on mange des protéines, en général, on dépense plus de calories à les digérer et à les brûler que celles qu'on a ingérées. Donc, par définition, si on mange que des protéines, on finit par perdre du poids. Sauf que les protéines, c'est assez difficile à métaboliser. Ça peut être très néfaste pour les reins qui doivent filtrer toutes ces protéines. Et il y a plein de gens qui ont eu des gros problèmes et qui se sont retrouvés avec des insuffisances rénales, avec des reins qui sont devenus malades parce qu'ils mangeaient trop de protéines. Et je connais quelques parents d'amis qui ont fait ce régime. Parce qu'à l'époque, c'était déconseillé, hein, pour les adolescents, c'était interdit, et pour cause. Et tous ont repris l'intégralité du poids qu'ils avaient perdu, et plus encore. Parce que vraiment, on perd très très vite avec ce régime. Si on a la volonté de le suivre scrupuleusement, on perd à une vitesse folle.
Ouais.
Et en fait, dès qu'on recommence à manger du pain, du riz, des féculents, on reprend tout et c'est la catastrophe.
C'est mécanique, hein, parce que le corps est en déficit de certains aliments. Et donc, dès qu'on lui donne de nouveau ces aliments-là, il va en profiter pour tout stocker au maximum dans l'éventualité d'une nouvelle carence. C'est évident que ça va pas fonctionner. Et en plus de ça, ce régime a l'air dégueulasse.
Non, mais c'est sûr que pour quelqu'un de végétarien, c'est l'horreur absolue. Mais moi, ça me faisait rêver quand j'étais jeune, parce que les gens, ils mangeaient des steaks, plein de choses qui, en général, sont plutôt pas très recommandées dans les régimes. Mm. Ça faisait rêver plein de monde, quoi, de se dire, bah voilà, je vais manger une entrecôte à tous les repas.
Mais quand même, tu vois, là, je regarde le régime type petit déjeuner, café, un yaourt, un œuf, déjeuner, œuf, poulet, yaourt, goûter deux tranches de blanc de dinde.
Ouais, oui, parce que dans ces fameuses tranches, il n'y a que des protéines, en fait, il n'y a rien d'autre.
Mais oui, mais c'est dégueulasse. Ça n'a aucun intérêt gustatif, quoi.
Non, je suis d'accord avec toi. Mais moi, je veux dire, j'aime bien en soi, tu vois, les œufs, le poulet, les yaourts, j'aime bien ça. Donc, je me dis, ah, mais génial.
Ouais.
Mais en fait, très vite, on a très faim, on n'a plus d'énergie. Enfin, c'est horrible.
Et puis, j'imagine la catastrophe pour la digestion.
Tu dois prendre des traitements laxatifs, hein, parce que tu manges aucune fibre. Donc, oui, c'est terrible.
C'était le régime des années 2000-2010, on va dire. Et aujourd'hui, c'est plus vraiment à la mode, ce régime. Mais on a d'autres manières de présenter les régimes aux gens qui sont un peu moins frontales. Et c'est un peu caché, en fait.
Un peu plus vicieux, hein.
Exactement. C'est pas du tout présenté comme un régime. En fait, c'est présenté comme quelque chose de bon pour la santé, de favorable aux gens, qui va leur faire du bien, qui va les rendre en meilleure santé, même plus heureux, avec une plus belle peau, des plus beaux cheveux. Tout va être mieux, en fait. Il y a le jeûne intermittent. Bon, je pense que la majorité des gens savent ce que c'est, hein.
Ouais, ça a été très à la mode récemment. C'est de ne pas manger pendant une fenêtre minimale de 16 heures.
Ouais.
En se disant que quand on mange, on sécrète de l'insuline. Et l'insuline, c'est ce qui fait stocker les sucres. Et l'insuline, il me semble qu'elle a une demi-vie de 8 heures dans le corps. Mm-hmm. Et donc, on attend deux demi-vies pour que l'insuline baisse réellement dans le corps. Et que du coup, il n'y ait plus cet effet stockage, mais au contraire, déstockage. Et pareil, en fait, ça marche très bien, hein, le jeûne intermittent.
Bah, ne pas manger, c'est sûr que...
Oui, certes, mais dans la fenêtre de 8 heures, même si tu dois pas te goinfrer, t'es quand même assez libre dans ce que tu manges.
C'est pas présenté comme un régime amaigrissant, généralement, dans les médias, les réseaux sociaux. C'est plutôt présenté comme une forme de pratique saine. Mais dans les faits, la majorité des gens qui le font dans un but de perte de poids, de perte de graisse.
Complètement. Moi, pour le coup, j'ai essayé le jeûne intermittent.
Mm-hmm.
Et j'avais trouvé ça extrêmement intéressant. D'ailleurs, depuis que j'ai fait le jeûne intermittent, j'ai arrêté de petit déjeuner. J'avais beaucoup lu dessus. J'avais trouvé ça hyper intéressant sur le plan scientifique, métabolique. Et c'est vrai qu'en fait, ça m'a fait me rendre compte que le matin, j'avais pas faim. Pour moi, un régime équilibré, c'était forcément petit déjeuner, déjeuner, collation, dîner. J'envisageais pas qu'il puisse y avoir autre chose. Et quand j'ai commencé à essayer un peu le jeûne intermittent, je me suis rendu compte qu'en fait, quand je mangeais pas le matin, j'allais très bien et j'allais même mieux que quand je mangeais le matin alors que j'avais pas faim et que à 11 heures, j'avais envie de tout manger, quoi. Et j'ai dû perdre, je pense, 2 ou 3 kilos assez rapidement, que j'ai repris hein, dès que j'ai arrêté, parce que je compte plus du tout cette histoire de 16 heures et ça m'intéresse plus. Mais effectivement, ça marche bien. Et quand on mange sainement dans la fenêtre de 8 heures, en vrai, il n'y a pas de risque pour la santé, quoi. C'est pas problématique. C'est pas comparable avec le régime du camp.
Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Moi, je trouve ça un peu gênant dans le sens où, déjà, je trouve ça un peu mensonger de dire aux gens que, voilà, ça va, ils vont se sentir super mieux, etc. Bon, évidemment, c'est du marketing, hein. Et puis après, je sais que pour les gens qui ont des troubles du comportement alimentaire, généralement, c'est terrible. Et c'est ça qui peut être dangereux, en fait. C'est pas tant le régime en soi, mais c'est plutôt quand on a des tendances à avoir des comportements un peu mauvais face à la nourriture, du type restriction excessive. On va dire que c'est un déclencheur de ça, quoi. Je pense que si on a des tendances comme ça, vaut mieux éviter.
Ouais, ou même dans l'autre sens, si on souffre de boulimie, on attend pendant 16 heures, on jeûne, et une fois que les 16 heures sont passées, là, je pense qu'on mange tout sur son passage.
Ouais, donc je pense que c'est peut-être bien si on a une relation saine avec l'alimentation, mais que ça peut être dangereux si on a déjà des tendances à avoir des troubles alimentaires.
De toute façon, toute forme de régime, hein, on est parfaitement d'accord sur ce sujet, c'est forcément mauvais pour la santé. Il y a un nouveau mot à la mode maintenant, c'est rééquilibrage alimentaire. honnêtement, je pense que c'est quand même moins pire que des régimes. Mais en fait, c'est l'idée de se dire, j'apporte des modifications dans ce que je mange. Mais en fait, c'est pour toute la vie.
Ouais.
C'est pas sur un mois, deux mois avant l'été. C'est, je vais essayer sur toute ma vie de manger plus de légumes, de manger moins de gâteaux. Ça paraît quand même un petit peu plus sain. Mais comme tu le dis, il y a une forme de vice un peu cachée et on sent que derrière tous ces mots qui tournent autour du bien-être et de la santé, il y a surtout, il faut perdre du poids pour être plus mince parce que être plus mince, c'est mieux. Trivialement, ça s'arrête là, quoi.
C'est ça. Et c'est vrai que c'est quand même une manière d'oppresser un peu les gens, quoi.
Malheureusement, je pense qu'on pourra jamais retourner à notre état d'enfant où simplement on mange quand on a faim et on mange pas quand on n'a pas faim. Je pense qu'on est tous un petit peu détraqués au niveau de l'alimentation.
Ouais.
Enfin, je dis ça peut-être parce que j'ai fait plein de régimes et que je suis une femme et que voilà. Peut-être qu'il y a plein de gens parmi ceux qui nous écoutent qui vont dire « je vois pas trop de quoi vous parler, moi j'ai faim, je mange, j'ai pas faim, je m'arrête de manger ». Et franchement, vous avez énormément de chance.
Ouais, c'est plutôt rare, je pense. Surtout chez les femmes.
Ouais, surtout chez les femmes.
Dans les pays européens ou l'Amérique du Nord, les autres pays, je connais pas trop, mais...
L'Asie, le Japon, la Corée du Sud, le culte de la minceur, il est très 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 poussé. Je pense aussi à Madagascar. Si t'es pas vraiment très mince, t'es considéré comme en mauvaise santé. Il y a quand même plein de pays où il y a un culte de la minceur.
Ouais, ouais. Bon, on va continuer, les amis. On a encore beaucoup de choses à dire. Alors, restez bien avec nous et on passe à la suite.
Vous l'aurez compris, les régimes, on n'aime pas ça. On aime les bons petits plats français. Et si la culture française vous intéresse, il est possible que le sponsor de cet épisode, Lingopie, vous intéresse.
Lingopie, c'est une plateforme de streaming, un peu comme Netflix par exemple, où vous pouvez regarder des séries, des films, des documentaires, des vidéos plus courtes en français et avec des sous-titres interactifs. Vous cliquez sur les mots inconnus, vous envoyez automatiquement une traduction en anglais et vous pouvez les sauvegarder afin de les réviser plus tard et même de tester votre mémorisation avec des quiz. C'est vraiment hyper efficace. Et si vous aimez d'autres plateformes comme Netflix, vous pouvez aussi associer votre compte Lingopie avec votre compte Netflix et regarder vos séries Netflix avec les sous-titres interactifs Lingopie.
Et moi, je vous recommande particulièrement sur cette plateforme la série avec le chef Philippe Etchebest, qui est un chef français hyper populaire en France, qui anime une émission, un concours de cuisine qui s'appelle Top Chef. Et cette série, elle s'appelle My Mentor Recipes with Philippe Etchebest. Je vous l'accorde, le titre est un peu particulier, mais c'est une super série où ils partagent des recettes traditionnelles hyper gourmandes, comme par exemple la sauce au roquefort, la tartiflette, voilà, des plats généreux, gourmands, qu'on aime beaucoup. Vous pourrez retrouver cette série sur Lingopie.
Pour tester Lingopie gratuitement pendant 7 jours, passez par le lien lingopie.com/easyfrenchpodcast. Et si vous êtes vraiment séduit par cette méthode d'apprentissage, restez membre de Lingopie et grâce à notre lien, vous aurez une réduction exclusive de 73% sur l'abonnement à vie et de 55% sur l'abonnement annuel.
La Minute Culture.
La culture de la minceur, la culture des régimes est très présente en France comme dans beaucoup d'autres pays et à Paris, elle s'exprime de manière un peu insidieuse, cette injonction à être mince. On peut la voir notamment se manifester quand on sort dans les bars, dans les cafés, dans les restos un peu branchés, sur le menu des cocktails, des jus, des salades, toutes sortes d'aliments ou de boissons qui sont présentés comme étant détox.
Alors, détox, ça veut dire concrètement qu'il y a pas mal de légumes ou qu'il y a un peu de gingembre ou un peu d'épices.
De curcuma.
De curcuma, ouais. Ils adorent mettre ça dans les cocktails. Des aliments ou des épices qui sont un peu estampillés bons pour la santé.
Et aussi qui favorisent la digestion.
C'est la digestion, le bien-être, la santé. Mais en fait, in fine, on a bien compris, c'est...
Vous êtes un peu trop gros. Moi, ça me fait toujours un peu rire quand je vois ça, parce que déjà, le fait de se détoxifier, entre guillemets, c'est un processus naturel que fait le foie.
Ça n'existe pas, des aliments détox, des choses qui détoxifient l'organisme, c'est impossible.
Voilà, c'est totalement un terme marketing.
Oui.
Et en plus de ça, ça me fait toujours un peu rigoler, ces produits détox sont toujours plus chers, comme par hasard.
Ouais.
On a le jus Bonne Mine qui coûte 7 euros et le jus détox, c'est toujours 8 euros, 9 euros.
Parce qu'ils ont rajouté un peu de céleri, un peu de gingembre, un peu de curcuma.
C'est ça.
C'est la taxe des gros. À Paris, il n'y a aucun espace adapté pour les gens non minces.
Ouais.
Être gros à Paris, c'est compliqué. Et souvent, les gens, quand ils viennent à Paris, ils sont étonnés parce qu'ils ne voient pas de gros. Et je défends, bec et ongles, l'hypothèse selon laquelle c'est pas qu'il n'y a pas de gros à Paris, mais c'est qu'ils ne sortent pas de chez eux.
Ouais.
Parce qu'en fait, pour prendre le métro, dans la plupart des stations, il n'y a pas d'escalator et il y a des montagnes d'escaliers. Aller dans des toilettes, dans des bars ou des restaurants à Paris, pour peu qu'ils soient dans des locaux un peu anciens, mais c'est impossible. Je ne pense pas être la plus épaisse du monde. Et parfois, j'ai du mal à ouvrir et fermer la porte pour accéder aux toilettes. Quand j'étais enceinte, j'ai eu un aperçu de ce que c'était d'être gros à Paris. Et vraiment, moi, je suis restée cachée chez moi.
Clairement, même dans le métro, les sièges, ils sont vraiment serrés.
Oh, tout petit.
Et dans les restaurants, les cafés, les tables sont très proches les unes des autres. Il n'y a pas d'espace dans l'allée entre la table et le mur.
C'est hyper gênant si tu veux rien que t'installer. Mais une fois que tu t'es installé, si tu veux te lever pour aller aux toilettes, tu vas forcément déranger plein de monde, quoi.
C'est vrai que je vois sur les réseaux sociaux des comptes où les gens disent justement quelles sont les villes où c'est safe pour les personnes dans telle ou telle situation. Et je pense que clairement, Paris, c'est pas très safe pour les gens gros. Vraiment, c'est triste, hein.
Et puis dans les magasins, si on veut s'habiller, c'est impossible de trouver des vêtements au-dessus de la taille L.
Je crois que même les tailles françaises sont particulièrement petites.
Clairement, moi, il y a plein de magasins où je m'habille en L. Je suis la taille maximale chez Zara, quoi. Donc, c'est compliqué.
Et la taille minimale, c'est quelque chose qui pourrait aller à un enfant de 12 ans.
Clairement.
C'est pas une ville où il est très agréable de se promener, de consommer quand on n'est pas très mince.
On aime beaucoup Paris, mais c'est vrai que sur ça, il y a encore beaucoup de travail à faire.
Je râle, tu râles, nous râlons.
On a déjà beaucoup critiqué dans cet épisode, parce que c'est vrai qu'il y a des choses qui nous déplaisent globalement dans l'idée de faire des régimes, être obsédé par la minceur, etc. Mais dans cette partie, je pense qu'on pourrait parler des comportements et des choses qui vraiment nous irritent et sont même clairement néfastes et clairement mauvaises.
Je pense que tu penses peut-être aux influenceurs, ces personnes qu'on voit sur Instagram qui font des contenus comme « What I eat in a day », donc ce que je mange dans une journée, et qui montrent un petit peu les repas, donc vraiment petit déjeuner absolument parfait, avec l'avocat parfaitement coupé, ces assiettes parfaitement bien présentées, pleines de couleurs, pleines de légumes, qui en soi ne devraient pas être dérangeantes. Quand on y pense, mais qu'ils le sont un peu parce qu'en fait, dans la vraie vie, c'est quand même compliqué de manger hyper équilibré tout le temps, toute la journée, de faire de super jolies présentations.
Ouais.
Très certainement qu'il y a plein de bonnes intentions derrière, mais ça reste des contenus qui sont hyper culpabilisants.
Ouais, c'est culpabilisant quand on compare avec notre assiette à nous. On a l'impression qu'on ne fait pas les choses bien parce que ça semble si facile de s'organiser pour manger des bons petits plats bien présentés, bien jolis tout le temps. Alors qu'en fait, dans la vie quotidienne de la plupart des gens, on n'a pas le temps. Et puis en plus de ça, je trouve ça quand même extrêmement dérangeant que des personnes qui, dans la plupart des cas, n'ont pas de compétences particulières, se jugent capable de dire aux gens ce qu'il faut manger, comment il faut le manger, à quelle heure. Même si les personnes ne disent pas toujours « c'est comme ça qu'il faut faire », d'une certaine manière, c'est présenté comme étant un idéal. Ça donne l'impression que si on fait comme cette personne, on sera forcément en bonne santé, alors que pas du tout. C'est pas parce qu'une personne mange ça et elle se sent peut-être vraiment très très bien, et tant mieux, mais ça ne veut pas dire qu'une personne qui fait pareil sera forcément tout aussi bien.
Je suis d'accord avec toi, c'est très compliqué cette notion d'équilibre alimentaire, malheureusement. Il y a des gens qui disent par exemple que un équilibre alimentaire, ça se compte sur une semaine.
C'est pas parce qu'on mange pas de légumes pendant une journée que ça y est, c'est raté.
On peut, ce jour-là, on a mangé une tartiflette et le soir, on a mangé un burger. Et normalement, si on suit un petit peu ces sensations de faim, le lendemain, on est censé avoir un peu moins faim et avoir envie de manger quelque chose de plus léger. Encore une fois, faut-il ne pas être trop abîmé par les régimes. Mais voilà, c'est vrai que tout juger comme ça sur une journée, ça a peut-être pas énormément de sens. Et puis, il y a les jeunes, non pas les jeûnes intermittents, mais les jeûnes sur 7, 10, 12, 21 jours. Et ce qui est très drôle, c'est que ça s'organise comme des espèces de retraites un peu spirituelles, où on ne va pas manger, on va boire. On va boire des bouillons pour avoir du sel, du potassium, des choses qui permettent quand même au corps de fonctionner. Mais on va rien manger de solide pendant 21 jours, 30 jours. Et ce qui, moi, me frappe dans ces pratiques, c'est que les gens payent très cher pour participer à ces retraites pour ne rien manger.
Ouais, c'est un petit peu délirant.
Pour avoir suivi sur YouTube une femme qui avait fait ça,
ouais,
pas forcément dans une démarche de perte de poids, et je la pense vraiment sincère, elle a quand même beaucoup critiqué ce qu'elle a fait et tout ce qu'il y avait derrière. En termes de perte de poids, elle a effectivement perdu pas mal de poids, mais elle a perdu principalement de l'eau, en fait, et du muscle. Et donc, malheureusement, elle a quand même repris pas mal de poids. Ce qui était très drôle, c'est que cette personne était végétarienne. Et pendant les 21 jours de jeûne, elle avait qu'une envie, c'était de manger un énorme steak de tofu. Elle y pensait tout le temps, elle voyait du tofu, du tofu, du tofu. Et donc, je pense qu'en fait, elle était en manque de protéines, quoi.
C'est quelque chose qui me dérange aussi beaucoup, c'est que toutes ces pratiques soi-disant bonnes pour la santé semblent être limitées à des personnes très riches.
Oui.
Et c'est parfois quelque chose qu'on voit aussi, même au quotidien, pas forcément sur Internet, mais des gens qui parlent de leurs pratiques alimentaires soi-disant parfaites, comme si c'était vraiment un idéal moral, en fait. Comme si c'était presque une religion. Et que le fait de ne pas manger tel aliment, c'était vraiment une identité. C'était une manière de se présenter comme quelqu'un de bien, d'éthique, parce que, non, moi, je mange pas de gâteau. Et je trouve ça tellement idiot, superficiel, en fait. Ça a aucun sens. Et c'est généralement des gens qui ont beaucoup de moyens financiers ou beaucoup de temps de se dédier à tout ça et de penser à tout ça. Et des gens, peut-être, qui n'ont pas grand-chose d'autre, en fait, dans leur vie à promouvoir que s'ils mangent des gâteaux ou pas, s'ils mangent des frites ou pas, du pain ou pas. Et vraiment, je trouve ça hyper agaçant. Et quand les gens disent « Ah non, moi, je mange pas ça », vraiment, ça ne m'intéresse pas ce que tu mets dans ton corps, en fait.
L'alimentation, c'est quelque chose de très intime. C'est quelque chose qui dit beaucoup sur qui on est. Effectivement, c'est presque un manque de pudeur, en fait, d'expliquer à quelqu'un « Moi, je mange juste ceci, je mange pas cela, je m'interdis de manger ça ». Et puis souvent, il y a quelque chose de moral et puis il y a quelque chose de l'ordre de la force mentale.
Mais donc, c'est pour montrer qu'on est soi-disant supérieur, en fait.
J'ai tellement de volonté, je suis tellement fort que je mange pas de gâteau.
Ouais, et puis moi, je suis tellement mieux que toi parce que moi, j'ai pensé que ça, c'était pas bon pour mon corps et donc je le mange pas. Mais on s'en fout, en fait.
Ouais. On est sur la même longueur d'onde sur ce sujet. Je suis complètement d'accord avec
vraiment.
Toi.
Vraiment. Je dis pas que je le fais jamais. Je pense que j'ai déjà dû le faire dans ma vie de dire « moi, je mange pas tel truc » en pensant que ça veut dire que je suis quelqu'un de bien. Et en fait, maintenant, j'essaye de ne pas le faire. Mais comme tout le monde, j'ai sans doute déjà fait des choses comme ça, très déplacées. Et c'est nul, quoi. Ça sert à rien.
J'ai souvent été atteinte par ce genre de propos parce que effectivement, je mange absolument de tout. Je n'ai aucune limite en termes de sucre et de gras. Et je ne vais jamais être écœurée ou dégoûtée par un aliment en disant ah non mais ça je peux pas le manger, c'est trop sucré. Ça ne m'arrivera jamais. Donc effectivement, je suis souvent celle qui mange n'importe quoi comparée à ceux qui mangent sainement. Mais en fait, avec le temps, on finit par s'en foutre.
Ouais, je pense que oui. Et puis, on finit par se détacher de ça. Enfin, moi, j'essaye de m'en détacher, mais c'est vrai que parfois, ça m'atteint encore. Quand quelqu'un me dit, par exemple, on veut manger ensemble, on va dans une boulangerie, moi, je prends un sandwich, et la personne dit, ah, moi, je prends une salade parce que je mange pas de pain. C'est bête, mais c'est vrai que je me dis, tiens, pourquoi moi, je mange du pain? Peut-être que j'en mange trop, tu vois. Même si on prend de la distance, ça continue quand même à être un petit peu présent et un petit peu agaçant. Ouais.
Les ondes joyeuses.
Essayons de finir sur des choses un peu positives. Alors, c'est pas facile, mais on essaye de s'éloigner, de prendre de la distance, de se détacher de toute cette culture culpabilisante, restrictive et un peu superficielle aussi. Et donc, il y a peut-être des manières qui peuvent nous y aider.
Oh, je vais pas t'aider sur ce sujet, Hélène.
Franchement, c'était pas facile pour moi non plus. Je me suis vraiment posé des questions parce que j'avais du mal à trouver des réponses à ça. Mais je pense qu'il y a des choses quand même qui aident. Je pense quand même, pour ma part, que depuis quelques années, j'ai une relation moins problématique et moins toxique à l'alimentation. Donc, je me suis quand même demandé comment j'ai fait parce que je suis partie de très très loin. Et je pense que ce qui m'a principalement aidée, c'est de manger avec d'autres personnes. Parce que c'est vrai que quand j'étais étudiante, je mangeais beaucoup seule. Ça alimentait mon obsession de la nourriture. Et en fait, le fait de manger avec d'autres personnes, ça fait que manger, c'est plus juste manger, en fait. C'est partager un moment, c'est vouloir faire plaisir aux autres. Cuisiner, pas seulement pour soi, mais pour d'autres personnes, ça fait qu'on a aussi envie que ce soit bon. Parce que moi, quand je cuisinais pour moi, quand j'étais étudiante, tout ce que je voulais, c'est que ce soit parfaitement équilibré, pas gras, pas sucré, pas salé. Et donc, je mangeais pas des choses honnêtement très bonnes. Ça me dérangeait pas puisque c'était que pour moi. Mais le fait de faire de la cuisine pour d'autres personnes, bah, ça pousse en fait à vouloir penser au goût des aliments et pas juste à leur qualité nutritive en fait.
Je comprends, clairement, c'est pas des choses qui fonctionnent pour moi. Chaque fois que je mange en groupe, je me rends compte instantanément que je suis celle qui mange le plus et le plus vite et le plus sucré. Mmh. J'ai plus tendance à me comparer quand je mange en groupe. C'est vraiment rare que je tombe sur des gens qui ont le même appétit que moi. Mmh. Mais j'avoue que quand ça arrive, ça me déculpabilise un petit peu. Mmh. Quand je mange, je prends des énormes bouchées. Puis souvent, quand les gens ils mangent avec moi, ils prennent des toutes petites bouchées, ils picorent et tout. Et j'ai l'impression d'être un ogre, en fait. Et c'est marrant parce qu'une fois, j'ai mangé avec quelqu'un qui mangeait plus vite que moi et de manière avec encore plus de gourmandise que moi. Et je lui ai fait la réflexion, sans penser à mal. Et en fait, elle m'a clairement répondu, mais en fait, moi, j'en ai rien à faire. C'est comme ça que je prends plaisir à manger et je m'en fous.
Ouais, bah, tant mieux pour elle. Hein.
J'avais jamais vu la chose comme ça parce que bah, tu me connais, je suis très dichotomique. J'ai toujours l'impression qu'il y a une bonne et une mauvaise façon de faire. J'ai toujours pensé que je mangeais mal, quoi. Et puis je me dis, bah voilà, c'est peut-être juste comme ça que je mange, et puis c'est comme ça.
Bah ouais, c'est clair.
Parce que j'ai essayé hein, vraiment de manger des petites portions, d'avoir fini de bien bien mâcher, tu vois, avant de commencer à préparer ma deuxième bouchée. Mais enfin, moi j'ai à peine mis quelque chose dans ma bouche que je prépare déjà la deuxième bouchée, quoi. C'est dire à quel point vraiment.
Oui, c'est vrai qu'on nous dit toujours « Ah, il faut mâcher 8 fois, il faut poser sa fourchette entre chaque bouchée. »
Bah non, quoi. Sinon, je prends pas plaisir à manger si c'est pour faire ça, quoi.
Comme toujours, ces choses-là, c'est pas forcément des mauvais conseils, mais c'est pas des conseils qui sont forcément adaptés à tout le monde. Je comprends que ça n'aide pas, mais moi, c'est vrai que ça m'aide un petit peu de manger avec mon copain, en tout cas. Pas avec tout le monde, parce que c'est vrai qu'il y a des gens avec qui manger, justement, ça m'angoisse. Mais c'est vrai que d'être deux à la maison, de cuisiner pour deux et de manger ensemble, pour moi, ça aide quand même un peu. Et puis aussi, de s'ouvrir un peu à d'autres cultures aussi, qui valorisent un peu moins le fait d'être mince.
Ouais, je t'écoute, dis-moi.
Il y en a, même s'il y en a peut-être pas beaucoup. Mais c'est vrai que bon, je parle de ça parce que j'y ai passé beaucoup de temps et ouais. Je connais pas beaucoup d'autres pays très lointains. Mais quand j'étais en Éthiopie, clairement, c'était pas un sujet, en fait,
ah ouais,
d'être mince. Là où j'étais, en tout cas, je pense que dans certains milieux sociaux, ça doit l'être. Mais c'est vrai que moi, les personnes avec qui je passais du temps là-bas, c'était pas un sujet, en fait. C'était,
c'est fou.
C'était quelque chose de très anodin.
Mais je veux dire, t'as vu des gens gros ?
Des gens gros, pas des gens obèses, parce que là-bas, c'est un pays où il y a beaucoup de gens pauvres, donc qui n'ont juste pas assez à manger, en fait. Mais des gens en léger surpoids, avec du ventre, etc., pour qui c'est pas un sujet. Ça veut pas dire que t'es moins bien, en fait. Il y a plein d'autres choses qui oppressent les gens, évidemment, les femmes surtout, comme dans toutes les cultures, mais ça, c'est pas particulièrement oppressant. Et par exemple, de dire bah, quelqu'un, ah oui, elle est grosse, c'est pas une insulte, c'est pas méchant, c'est juste une caractéristique.
Ok. Je ne suis jamais allée dans un endroit pareil. Mais jamais. J'essaye de chercher là, mais partout où je suis allée, c'est... Et même, j'ai l'impression que partout où je suis allée, parfois, c'était pire qu'à Paris, quoi.
Non, mais je pense qu'effectivement, c'est le cas dans beaucoup d'endroits. Hein.
Pardon, c'était censé être les ondes joyeuses.
Donc, c'est vrai que moi, voir un peu ça, ça m'a permis aussi de... Pas de me détacher, bien sûr, parce que voilà, on a sa culture et on n'y peut rien, mais d'avoir un peu de perspective, en fait, et de voir que dans certains endroits, bah, être fine, être mince, c'est pas une qualité morale, ça veut pas dire que t'es une meilleure personne, c'est juste une caractéristique. Et ça peut être un peu plus neutre.
Et ben, j'espère qu'un jour on y arrivera, ouais. Écoute.
Donc voilà, moi ça m'a aidé en tout cas.
Eh bien écoute, est-ce que moi je peux partager quelque chose qui m'a aidé ?
Oui.
Ce qui m'a énormément aidée, c'est certaines influenceuses en rapport avec le sport qui montraient des corps épais. Effectivement, on montrera jamais des corps gras, mais en tout cas qui montraient des corps épais et musclés. Et quand j'étais plus jeune, je me suis rendu compte que j'aurais jamais, par exemple, ta morphologie. C'est juste pas possible. Même si je m'affamais, même si je pesais 30 kilos, j'aurais toujours plus de hanches qu'une fille toute fine. C'est comme ça. Je me suis rendu compte qu'il y avait des femmes qui l'avaient complètement accepté et qui essayait, juste en faisant du sport, de sculpter un corps qui soit musclé, qui soit ferme. Et ça, pour le coup, ça m'a énormément aidée. Et je pense que pour les femmes rondes, effectivement, faire du sport, c'est une super chose. Bien évidemment, pas tomber dans l'excès, hein. Mmh. Mais moi, ça m'avait permis, quand j'avais le temps et l'énergie de faire beaucoup de sport, de me sentir hyper bien dans ma peau, même si j'avais toujours un poids qui était relativement élevé, même si je n'ai jamais mis de 36 et je n'en mettrai jamais, et ben j'étais hyper bien dans ma peau parce qu'en fait, je me sentais forte.
Ouais, non, mais le sport, c'est vrai que c'est quelque chose d'incroyable et je pense que ça aide beaucoup de gens aussi qui ont soit des problèmes de comportement alimentaire, soit des insécurités, des complexes. Ça permet de sentir le corps d'une autre manière, de voir l'alimentation d'une autre manière parce que c'est quelque chose qui te paraît évidemment essentiel. C'est toujours essentiel, mais parfois on oublie à quel point c'est notre carburant, en fait.
Effectivement, quand on fait du sport, ça régule énormément l'appétit et instinctivement, on a plus faim de choses avec des bons nutriments, on a plus faim de légumes, de bonnes protéines que de gâteaux. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'était vraiment comme ça que je l'avais ressenti.
Mmh. Ouais, mais les gâteaux, c'est quand même très bon.
Les gâteaux, c'est extraordinaire.
Bon, je pense qu'on a beaucoup parlé aujourd'hui.
Ouais, peut-être que cet épisode est plus long que d'habitude, mais c'est un sujet qui nous tenait à cœur.
Ouais, tout à fait. Et comme si on n'avait pas assez parlé, on va continuer un petit peu dans le bonus.
Et oui, parce qu'on a encore plein de choses à dire. Et à tous les autres, on vous dit à la semaine prochaine.
À bientôt.